Bonjour, bonjour à tous. Le plastique va continuer de couler à flot. Il n'y aura pas de traité international de lutte contre cette pollution. Les négociations entre 185 pays ont échoué. Cette nuit, on sera en direct de Genève dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, un moment de vérité attendu en Alaska avec le sommet Poutine-Trump sur l'Ukraine. Nous serons avec des Ukrainiens en colère et tenterons de comprendre quelle est la marge de manœuvre du président américain. Au Proche-Orient, un ministre israélien veut intensifier la colonisation en Cisjordanie avec un méga-projet immobilier, un projet qui pourrait enterrer définitivement l'espoir d'une solution à deux États. Et puis, on se penchera sur le classement de Shanghai des meilleures universités du monde, une méthode un peu superficielle, d'après un spécialiste. Des millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans l'océan. L'enjeu pour la planète est énorme et pourtant, il n'y aura pas de traité pour réduire la pollution plastique. Après 10 jours de tractation, les 185 pays réunis à Genève ne sont pas parvenus à un accord. La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit en colère. Elle dénonce la stratégie d'obstruction de certains pays, ceux qui produisent de l'énergie fossile, dont les États-Unis. Célia Kiré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes envoyée spéciale à Genève. Vous avez suivi ces 10 jours de négociations et cet échec, c'est l'échec d'une méthode, celle du multilatéralisme de l'ONU.
Oui, l'ONU n'a pas réussi ces 2 dernières semaines à créer le consensus. Aucun texte proposé n'a été à la hauteur de l'enjeu. C'est une victoire des pays du Golfe et des États-Unis, regrette Cheikh Sylla, négociateur sénégalais.
Il y a un grand problème sur le multilatéralisme parce qu'on se rend compte que sur toutes les dernières conventions, les derniers traités sur l'environnement, il y a trop d'intérêts économiques, trop d'intérêts politiques. Bon, ce qui fait qu'on oublie l'environnement et on traite l'économie. Et ça, on le voit dans le climat, dans la biodiversité, on sait maintenant comment bloquer, quoi. Il faut améliorer à l'avenir. Il faut maintenant réfléchir, s'asseoir et revoir comment reprendre nos stratégies. Celle-ci n'a pas marché.
Et en effet, la règle du consensus a échoué. En principe, les États se retrouveront pour une prochaine session de négociation, pas avant 2026, mais un nouvel échec est possible dans les mêmes conditions pour le ministre belge de l'Environnement, Jean-Luc Kruk.
C'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, mais en même temps, on a quand même vu plus d'une centaine de pays qui se sont réunis sur des objectifs forts. Et donc c'est plus un signal vers l'avenir en disant à ceux qui aujourd'hui ne pensent qu'à la production de pétrole et aux richesses matérielles, l'argent que produit ce pétrole, si vous faites crever la planète, votre argent ne servira à rien. Et donc je crois que plus que jamais aujourd'hui, tous ceux qui sont fâchés parce qu'il n'y a pas d'accord sont encore plus décidés de trouver un accord demain.
Et en effet, au-delà de cette occasion manquée, de cet échec historique, plus de 120 pays sont prêts plus que jamais à signer un accord. Selon certains observateurs et ONG, ils pourraient le voter seuls, sans les pays pétroliers. Ce serait peut-être la seule solution face à l'urgence de la pollution plastique.
Merci Célia Kiré à Genève avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Nous sommes à quelques heures d'une rencontre historique, le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, Anchorage. Tête à tête prévu à partir de 21h30 heure de Paris pour parler de l'Ukraine. Rencontre suivie de négociations entre délégations russes et américaines. Le grand absent, c'est bien sûr Volodymyr Zelensky, mais il y aura tout de même une présence ukrainienne. Celle des milliers d'Ukrainiens d'Alaska qui ont fui le conflit. Ils participeront aux manifestations de soutien organisées depuis plusieurs jours. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Alaska, Sandrine Etoa-Handeg et Eric Audra.
En voyant tous ces drapeaux bleus et jaunes, comme celui qu'elle a noué sur ses épaules, agités le long de cette autoroute d'une zone commerciale d'Anchorage, Ekaterina n'a pu s'empêcher de pleurer. Mon cœur déborde de reconnaissance devant toutes ces personnes venues en soutien. Tous ces gens d'Alaska sont là et nous montrent que nous ne sommes pas seuls. Elle et son mari Alexander viennent de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, à l'offensive dans la région. Ça fait un peu moins de 3 ans qu'ils vivent en Alaska, où leur fille d'un an est née, loin des bombardements. Ici, on se sent en sécurité, protégé, heureux. Et aujourd'hui, il arrive. Souffle-t-elle en parlant de Vladimir Poutine. Ce sont des sentiments partagés, de la peur, de la colère et une grande douleur. Surtout quand elle pense au quotidien de sa famille restée là-bas. Pour son conjoint, Poutine est un criminel que personne ne veut rencontrer, mais le président américain lui ouvre grand les portes. Espérons que ça apporte quelque chose. Que notre pays ne sera pas découpé en morceaux, ajoute Ekaterina, qui conclut, amère, c'est très étrange quand même qu'au XXIe siècle, l'avenir d'un pays en guerre soit décidé par deux autres pays, dont l'un est l'agresseur. Mais à l'écoute de cette fanfare, Ekaterina sourit.
Voilà le reportage de Sandrine Etoa-Handeg et Eric Audra, envoyés spéciaux en Alaska. Alors Donald Trump peut-il convaincre Poutine d'un cessez-le-feu en Ukraine? Est-ce qu'il y aura des avancées concrètes au-delà de la simple rencontre? La Russie ne fait aucune supposition sur l'issue du sommet. Voilà ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ce matin à son arrivée en Alaska. Mais pour faire avancer le dossier, le président américain dispose d'un certain nombre de leviers. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la composition de la délégation russe qui se rend aujourd'hui à Anchorage. La présence du ministre des Finances et du patron du Fonds souverain démontre l'importance accordée au développement des relations économiques entre Moscou et Washington, à l'heure où l'économie russe donne de premiers signes de faiblesse. Et en matière économique, les deux pays ont des intérêts convergents dans plusieurs secteurs, à commencer par l'Arctique, où justement se tient ce sommet. On évoque ici le développement de projets conjoints, qu'il s'agisse de navigation, voire d'extraction de matières premières, la reprise des vols commerciaux entre les deux pays, où l'autorisation de survol de la Russie pour les avions de ligne américains est aussi discutée. Les traités sur les armes nucléaires, dont Moscou s'est retiré à la suite de Washington, seront également abordés. Autant de sujets certes bilatéraux, où Moscou veut avancer. L'auteur de l'art du deal devra donc souffler le chaud et le froid sur les dossiers qui intéressent la Russie pour obtenir en contrepartie des concessions sur l'Ukraine de la part du président russe.
Et si tout se passe bien, Donald Trump assure que cette rencontre va ouvrir la voie à une autre, à trois cette fois-ci, en conviant Volodymyr Zelensky au sommet. Il a laissé entendre que ce sommet tripartite pourrait se tenir très rapidement et également en Alaska. Vague de condamnation internationale après les propos d'un ministre israélien, Bezalel Smotrich, membre de l'extrême droite, veut accélérer la colonisation en Cisjordanie. Il compte approuver un plan de construction d'ampleur, opposition de l'ONU et même de Berlin, soutien diplomatique d'Israël. Car Alice Moreno, ces nouveaux quartiers risqueraient de couper le territoire de Cisjordanie en deux et compromettre encore davantage la concrétisation d'un État palestinien.
Le projet de construction que souhaite Bezalel Smotrich est massif, 3400 logements qui constitueraient une colonie gigantesque à l'est de Jérusalem, en plein cœur du territoire palestinien. S'il est acté, ce projet, totalement illégal au regard du droit international, risquerait de couper le territoire de la Cisjordanie en deux. Le nord et le sud seraient alors divisés, alors que le territoire est déjà terriblement morcelé et que les violences et les meurtres perpétrés par les colons contre les Palestiniens se multiplient. En ressortant ce projet du tiroir gelé depuis 2021, le ministre d'extrême droite veut précisément rendre impossible la concrétisation d'un État palestinien. Un moyen aussi de répondre aux récentes déclarations de certains États occidentaux qui indiquent vouloir reconnaître un État de Palestine en septembre. Bezalel Smotrich a fait ses annonces hier lors d'un déplacement dans une colonie en Cisjordanie. Si vous reconnaissez un État palestinien en septembre, notre réponse sera l'application de la souveraineté israélienne sur toutes les parties de la Judée-Samarie, a-t-il prévenu. La Judée-Samarie étant le nom biblique employé par une majorité d'Israéliens pour désigner la Cisjordanie. En mai dernier, déjà, le gouvernement israélien a approuvé la construction de 22 colonies illégales en Cisjordanie.
Alice Moreno. Et par ailleurs, ce matin, la France a dénoncé la destruction par l'armée israélienne d'une école en cours de construction en Cisjordanie, un bâtiment financé par l'Agence française de développement, le Quai d'Orsay, je cite, demande des comptes aux autorités israéliennes. Au Mali, des dizaines de militaires arrêtés. Le gouvernement malien assure qu'il préparait un coup d'État. Parmi les personnes interpellées, plusieurs généraux, donc, et un Français, Solène Delarquier, bonjour.
Bonjour.
Le Mali l'accuse de travailler pour les services de renseignement français.
Oui, c'est le seul ressortissant étranger interpellé, selon le gouvernement malien, qui a publié hier la photo et les noms de plusieurs personnes, essentiellement des militaires et donc ce Français. Dans un communiqué, le Mali l'accuse de travailler pour la DGSE, les services de renseignement français. Nous avons joint le Quai d'Orsay qui ne fait aucun commentaire pour le moment. En tout, 55 personnes ont été interpellées, dont deux généraux maliens. La junte militaire au pouvoir assure qu'il cherchait à déstabiliser les institutions, selon les mots employés dans le communiqué, avec, dit-elle, l'aide d'États étrangers. La junte est arrivée au pouvoir après deux coups coup d'État en 2020 et 2021, arrivé au pouvoir qui a marqué un regain de tension avec la France, ancien pays colonisateur, au point que les délivrances de visas sont suspendues entre les deux pays. Le dirigeant malien Assimi Goïta a, au fil des années, pris ses distances avec les différents partenaires occidentaux pour se tourner vers la Russie. Son gouvernement, censé conduire une transition, a encore prolongé cette année son mandat pour 5 ans supplémentaires, interdisant au passage les partis politiques. Cette vague d'arrestations montre une certaine agitation au sein du corps militaire. Les deux plus hauts gradés interpellés sont 2 généraux très respectés dans l'armée. Le Mali subit une crise sécuritaire depuis une quinzaine d'années avec la présence de plusieurs groupes terroristes, doublés d'une importante crise économique.
Merci Solène Delarquier. Les moussons font des ravages en Asie. 50 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures au Pakistan, principalement dans le nord-ouest à la frontière avec l'Afghanistan. En Inde, 60 personnes ont perdu la vie dans des inondations dans un village de l'Himalaya. 80 autres sont portées disparues. La plupart participaient à un pèlerinage hindou. En France, la chaleur et les orages hier en montagne avec des rafales à 100 km/h en Savoie. Un automobiliste est mort dans la soirée à Éton. Un arbre a chuté sur sa voiture. Puis en fin de matinée, 700 foyers étaient toujours privés d'électricité en Savoie et en Haute-Savoie. La classe politique pointe aujourd'hui la haine antisémite. En Seine-Saint-Denis, un arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été abattu mercredi soir. Ilan Halimi, jeune français, juif, séquestré par le gang des barbares et torturé à mort. C'était en 2006. L'olivier avait été planté 5 ans plus tard à Épinay-sur-Seine. Cela fait partie des traditions de l'été dans le sud-ouest. Les férias, celle de Béziers en ce moment, n'est pas épargnée par les tensions. En cause, les corridas, une 50aine de taureaux seront mis à mort d'ici dimanche, d'après les opposants. Mercredi, pendant la procession de la Vierge qui lance les festivités, 2 femmes déguisées en nonnes ont déployé une banderole. Torturer les animaux est un péché. Des vidéos montrent le maire Robert Ménard bousculer ses militantes. Nouvel épisode aujourd'hui, les opposants appellent à manifester cet après-midi. Antoine Marrette.
La corrida, il y a les anti et les pros, sans conteste le maire de Béziers, dans la seconde catégorie. Voici ce que Robert Ménard disait des anti mercredi dernier lors du lancement de la feria.
La feria, c'est un bras d'honneur à tous ces emmerdés. Vous savez, les rageux qui ne supportent pas que nous allions applaudir le courage des taureaux et la bravoure des taureaux qui doivent être mal dans leur peau, tous ces pisse-froids.
Robert Ménard, cofondateur de Reporters sans frontières et défenseur revendiqué d'une liberté d'expression absolue, a pourtant tenté de faire interdire les manifestations anti-corrida dans le centre-ville de Béziers pendant la feria. Officiellement, je cite, pour leur éviter de prendre la raclée qu'ils mériteraient. Sauf que l'arrêté préfectoral contesté en justice a été partiellement suspendu hier par le juge des référés. Il estime que les manifestations organisées dans le passé par le comité de liaison bitérois anti-corrida, le COLBAC, n'ont pas généré de troubles importants à l'ordre public. La présidente de l'association, Sophie Maffre-Bauger, savoure sa victoire.
Notre liberté à dire haut et fort que Robert Ménard soutient la cruauté de la corrida, cette liberté, c'est un droit et ce droit nous a été reconnu par le tribunal administratif de Montpellier. Que cela plaise ou non à M. Robert Ménard, nous pourrons aller sur les allées publiques pour nous faire entendre.
Robert Ménard a annoncé que la ville de Béziers portera plainte contre le COLBAC. L'association a accusé la mairie de soutenir la torture.
Et les militants anti-corrida se sont donc donné rendez-vous tout à l'heure à 15h à Béziers. Le classement de Shanghai dévoilé ce matin, un classement mondial des universités. Il regarde notamment le nombre de publications en sciences dites dures et le nombre de prix Nobel parmi les élèves et enseignants. Peu de changements cette année. Harvard toujours au sommet, suivi de 9 établissements anglo-saxons. Paris-Saclay est 13e, Paris Sciences Lettres 34e et la Sorbonne Université 43e. Mais ce classement ne reflète pas la situation de l'enseignement supérieur français, explique Hugo Harari-Kermadec. Il est chercheur, auteur de l'ouvrage « Le classement de Shanghai, l'université marchandisée ».
C'est la chose la plus superficielle qu'on peut faire sur la recherche, puisqu'initialement, c'est un classement qui a été fait sur l'Internet des années 2000 en regardant des listes de prix Nobel et puis quelques publications, mais vraiment extrêmement simplifié, sans jamais rien lire, sans jamais aucun contenu. Donc ça ne dit pas ce qui se passe dans les établissements, dans les laboratoires de recherche du tout. Par contre, spécifiquement en France, ça a eu une importance énorme parce que le gouvernement a décidé à la fin des années 2000, de transformer le système d'enseignement supérieur et de le faire à partir de cet indicateur. Ça aurait pu être un autre, mais il se trouve que c'est celui-ci. On a attribué des financements énormes, hein, proche du milliard d'euros, à quelques établissements, une petite dizaine, qui, du coup, ont beaucoup changé. Et puis, le reste du système d'enseignement supérieur, par contre, on leur a pas attribué d'argent, quoi. Donc, ça a fait une transformation assez forte, une polarisation du système universitaire français à partir du classement de Shanghai, et très concrètement à partir du classement de Shanghai, hein, puisque il y a eu un moment où le jury qui attribuait les financements a posé cette contrainte explicite après des années à pas le dire très clairement. Il faut monter dans le classement pour obtenir ces financements-là.
Hugo Harari, Kermadec au micro d'Estelle Caméraire. Puis on passe à la météo. 70 départements sont en vigilance orange pour risque de canicule aujourd'hui. La chaleur gagne la Bretagne, une partie de la Nouvelle-Aquitaine et du centre-Val de Loire. La Drôme et l'Aude, elles, sont en vigilance rouge au feu de forêt. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec l'aide d'Alison Vicrobeck et d'Anthony Thomasson à la technique.